Je vous invite à chercher dans votre Bible à présent l'Épître aux Hébreux. On a commencé une petite série il y a quelques semaines sur les premiers chapitres, Hébreux chapitre 4. J'aimerais que l'on médite ce matin sur ces versets 14, 15 et 16. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te demander d'ouvrir nos cœurs, de les disposer à l'écoute de ta voix, de ta parole. Te prions pour que ta parole pénètre notre âme, qu'elle nous secoure, Seigneur, selon nos besoins, qu'elle nous attire à toi, et que, en effet, nous puissions nous approcher ce matin, chacun de ta personne admirable, par Jésus-Christ. Amen. Quelle invitation ici nous trouvons. La prière occupe une place des plus importantes dans la vie du chrétien. Au fond, sa vigueur spirituelle, sa joie, sa croissance, son utilité dans l'œuvre de Dieu, eh bien, dépendent de la prière. Dans la Bible, les plus grands encouragements portent sur la prière et nous poussent à nous livrer à Jésus-Christ et à nous approcher de lui. Et ce verset est, je crois, l'une des plus douces invitations à prier que l'on puisse trouver dans les Écritures. Reconnaissons qu'une lutte terrible commence dès que l'on aborde le sujet de la prière. C'est comme si il nous est plus facile de faire toute autre chose que de prier. Toute autre chose semble plus urgente que de prier. J'ai vécu ça chaque fois que j'ai voulu prier. Je dis, ah mais peut-être je devrais d'abord faire ça. Ah, puis j'ai ça absolument à faire. Plutôt que de simplement nous approcher de Dieu. John Bunyan a dit « Vous pouvez faire plus que prier après avoir prié, mais vous ne pouvez rien faire d'autre que prier jusqu'à ce que vous ayez prié. La prière est notre premier besoin. C'est comme de respirer, c'est vital. » Quelqu'un demandait un jour à un pasteur « Mais pourquoi faut-il prier ?» Alors que Dieu qui nous aime tant et qui connaît tous nos besoins avant même que nous les lui présentions, pourquoi est-ce qu'il nous faut prier? Et la réponse de ce pasteur me semble intéressante. Il a répondu, peut-être Dieu sait-il que la prière est ce dont nous avons fondamentalement besoin d'abord. Peut-être est-ce à cela que servent tous nos autres petits besoins, nous conduire dans la prière jusqu'au Seigneur. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu dans ce sens que nous avons besoin de lui parler. Nous avons besoin de répandre nos cœurs devant lui. Nous avons besoin de communion avec lui. Je voudrais parler ce matin, pas de la prière communautaire, celle que l'on a le mardi soir ici, ou celle que vous pouvez avoir en famille, tous ensemble, réunis. Non, je voudrais parler de cette communion que l'on développe avec le Seigneur, cette relation personnelle, cette relation individuelle. On le sait, et pourtant il est si facile pour le chrétien d'être en communion avec d'autres chrétiens, de pratiquer des œuvres chrétiennes, d'exercer un ministère chrétien et de ne pas avoir communion avec Jésus-Christ lui-même. Le problème que rencontrent certains destinataires de cette lettre, c'est qu'ils connaissent des choses sur Christ, mais ils n'ont pas encore véritablement connu Christ. C'est une chose que de savoir qu'on devrait entrer dans sa présence. C'en est une autre, d'être dans sa présence. La prière établit notre niveau de relation, au fond, notre niveau de dépendance, de confiance, d'amour avec le Seigneur. La prière, c'est le moment où la lumière vient dans notre âme. C'est le moment où, comme la rosée qui se dépose sur la semence, les fruits poussent. C'est ce qui aussi donne du tranchant à notre vie, cette relation intime avec le Seigneur. Un jeune homme avait été recruté comme bûcheron. Il a été recruté le lundi et le jeudi après-midi, le contremaître lui dit « Ah, tu ne vas pas rester avec nous, tu peux passer prendre ton chèque. C'est fini pour toi, tu ne tiens pas la cadence. » Alors le jeune, il dit « Ah bon, je fais tout de mon mieux. » Il dit « Oui, ben, lundi, tu étais le premier, c'est toi qui en as battu le plus, mais mercredi, c'est toi le dernier. Et aujourd'hui, c'est encore pire. » Alors il se confond d'excuses, il dit « Mais mercredi, je suis venu le premier. » Mercredi, je suis parti le dernier. J'ai même travaillé pendant la pause. Et je ne comprends pas. Je mets tout ce que j'ai. » Et puis le contremaître réfléchit un peu et il voit la sincérité de ce jeune homme et lui demande « Mais as-tu pris le temps d'affûter ta hache ?» Il a dit « Non, j'ai même pas pensé. J'étais tellement occupé à tailler. » Quel manquement évident! Comment peut-on commettre une telle erreur? Cependant, n'est-ce pas ce qui nous arrive à nous, chrétiens? On n'arrive pas à accomplir notre tâche. Nos responsabilités deviennent extrêmement pesantes. Les frustrations s'ajoutent les unes aux autres. Nous n'arrivons pas à avoir la victoire sur la tentation. Alors le découragement nous gagne et l'amertume remplit notre cœur. Mais nous n'avons pas pris le temps d'affûter notre vie dans la prière. Je veux dire dans une rencontre personnelle avec le Seigneur. Alors l'invitation est lancée. Il dit ici, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus. » J'aimerais qu'on regarde ce matin que c'est une invitation aimante. C'est aussi une invitation raisonnable. Et puis enfin, c'est une invitation rassurante. C'est une invitation aimante. Vous avez noté, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est la voix de quelqu'un qui nous accompagne. L'auteur de l'Épître dit, nous, approchons-nous. Approchons-nous donc. C'est un homme comme nous, c'est un homme de la même nature que nous, connaissant les mêmes luttes que nous, mais un croyant expérimenté qui a usé de la puissance de la prière. Et puis c'est aussi la voix de toute l'Église qui parle, de tous ceux qui nous ont précédés, de tous ceux qui ont expérimenté la prière et qui ont été secourus par Dieu. C'est la voix de tous ces frères et ces sœurs qui nous disent « Je suis passé par là, je suis passé par ta situation et j'ai été secouru quand je suis venu auprès de Christ, devant le trône de la grâce et que j'ai déchargé mon âme devant le Seigneur. » C'est la voix du Saint-Esprit plaidant dans nos cœurs. Lui qui connaît parfaitement notre situation, nos besoins, et qui sait Quel secours efficace nous est assuré devant le trône. Et il plaide dans nos cœurs et il dit « Approchons-nous donc ». C'est la voix de Dieu lui-même qui dit « Venez et plaidons ». Il est notre avocat, il est le consolateur, celui qui se tient à nos côtés. Il dit « Venez et plaidons », dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Imaginez ça. Il dit « Venez », mais l'instant où l'on vient, il dit « Plaidons ». Il est là, à nos côtés. Il nous secourt. C'est la voix de Jésus-Christ qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Alors, ne soyons pas indifférents à cet appel amical, à cette invitation aimante qui nous est laissée. Approchons-nous d'un cœur sincère devant Dieu. Et puis, c'est une invitation raisonnable. Il dit « Approchons-nous donc !» qui fait référence à tout ce qui a été évoqué déjà avant. Et ce qui a été évoqué avant, c'était le repos que tous ces hommes ne possédaient pas encore. Nous ne connaissons pas le repos tant que nous ne sommes pas approchés de lui. Nous vivons encore dans la crainte, nous vivons encore dans la culpabilité, nous vivons encore dans l'amertume ou dans l'inquiétude. Mais nous ne connaissons pas le repos. Le repos vient quand l'œuvre est achevée. Et je vous envoie à écouter le message de dimanche dernier, prêché par le pasteur Samuel, sur le repos. Comment Dieu s'est reposé de son œuvre le septième jour, parce que son œuvre était achevée et qu'elle était parfaite. Il a dit que tout ce qu'il avait fait était très bon et c'est pour ça qu'il s'est reposé. Il s'est reposé parce qu'il n'y avait plus rien à ajouter. Alors, nous connaîtrons nous aussi le repos quand nous aurons achevé l'œuvre de notre rachat. Mais ça, c'est impossible parce que nous ne faisons qu'augmenter notre dette de jour en jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a accompli notre rachat. Il a payé notre dette, l'offrande de sa vie parfaite à la croix et sa résurrection ont satisfait la justice de Dieu. Et si c'est vrai, alors nous pouvons connaître le repos en nous reposant sur ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Alors, approchons-nous donc, puisque Jésus-Christ a payé pour nous. Au verset 13, il est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Approchons-nous donc parce que nous ne pouvons rien cacher. Rien cacher de nos vies, de nos cœurs. Rien caché de nos pensées les plus secrètes, les plus intimes. Nous ne pouvons rien masquer au regard du Seigneur. Et un jour, nous devrons nous présenter devant lui, de toute façon. Et nous devrons rendre des comptes. Alors, puisque nous sommes coupables, mais néanmoins accueillis par Jésus-Christ, ou à cause de Jésus-Christ. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc avec assurance. Puisque nous sommes faibles, puisque nous avons toutes sortes de besoins et qu'il est fort, approchons-nous donc. Puisque nous sommes insensés et qu'il est sage, puisque nous sommes craintifs, et qu'il contrôle toutes choses, puisque nous avons des besoins, et qu'il possède toutes choses, approchons-nous donc avec assurance pour être secourus dans nos besoins et trouver grâce auprès de lui. Et puis c'est une invitation rassurante. Les versets 14 et 15 disent « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Le grand sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a obtenu notre pardon. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur avait comme première tâche d'ôter le péché du peuple. Il ne pouvait le faire qu'une seule fois par an, le jour de Yom Kippour. Le peuple d'Israël va fêter le Yom Kippour le 14 septembre cette année. Et il devait traverser le tabernacle, le parvis, le lieu saint, pour entrer finalement dans le lieu très saint. Ce tabernacle, il était fait de main d'homme. Le lieu très saint, c'était là où était l'arche, avec le propitiatoire, le couvercle, et puis les séraphins au-dessus. Et c'était là qu'était symbolisée la présence de Dieu. Il devait le faire après avoir offert un sacrifice pour ses propres péchés. Et puis il apportait le sang des boucs avec lesquels il aspergeait le propitiatoire. Mais Jésus, lui, il est le grand souverain sacrificateur. Il a pénétré dans la présence même de Dieu. Il est dit ici, il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux et il est allé dans l'endroit où personne ne va, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Et puis, il y est resté, il y demeure. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce n'est pas une fois l'an, mais il y est en permanence. Et puis, il n'a pas eu besoin d'offrir un sacrifice pour ses propres péchés. Il n'en avait pas. Il n'est pas venu avec le sang d'un bouc, mais il est venu avec son propre sang. Et c'est pourquoi Dieu a été satisfait par son sacerdoce. C'est comme si Dieu dit, Jésus-Christ a satisfait ma justice. Chacun de vous pouvait entrer dans ma présence parce qu'au moment où il s'est offert, le voile a été déchiré et vous êtes vous-même invité. C'est rassurant de savoir que la paix déjà a été faite. Si autrefois le peuple pouvait jouir d'une certaine paix par le sacerdoce d'Aaron, à combien plus forte raison nous pouvons connaître, nous, par le sacerdoce de Jésus-Christ, préfiguré par celui d'Aaron, une paix certaine. Voilà pourquoi nous pouvons venir avec assurance. C'est une invitation rassurante aussi parce que le trône devant lequel nous nous approchons n'est pas un trône de jugement, mais c'est un trône de grâce. Le trône de grâce, c'est le trône où on ne vient pas selon nos mérites, mais on vient selon l'amour de Dieu. On ne vient pas pour essayer de s'excuser. Non, on vient coupable, mais on est quand même reçu et on est quand même entendu. On vient sans aucun mérite. Et tous ceux qui s'en approchent obtiennent miséricorde et trouvent grâce. La plupart des rois de l'Antiquité ne pouvaient être approchés que par leurs conseillers les plus importants. Vous vous souvenez de l'histoire de la reine Esther. Elle est reine et elle ne peut même pas venir devant son mari si elle n'y est pas invitée expressément par lui. Mais nous pouvons tous, aussi misérables que nous sommes,
aussi indignes que nous sommes, nous pouvons tous venir devant lui et nous approcher de lui et être entendus et recevoir le secours dont nous avons besoin. Nous qui sommes coupables, dépourvus de mérite, nous sommes entendus à cause de la grâce de Dieu. Approchons-nous donc. C'est tellement rassurant. Et puis, si c'est un trône de grâce, ça reste néanmoins un trône. Quand nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous venons devant le souverain, c'est-à-dire devant le tout-puissant, le roi des rois, le seigneur de la terre, le créateur du monde. J'aime cette pensée où les disciples, dans les Actes des apôtres, ils avaient été persécutés et ils étaient menacés de continuer à parler du Seigneur. Et à ce moment-là, ils étaient troublés parce qu'une certaine crainte pouvait gagner leur cœur. Et ceux qui avaient été frappés ont rejoint les autres et puis ils ont prié. En chapitre 4, verset des Actes des apôtres, au verset 24, il est dit: lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et ils dirent: Seigneur. La plupart du temps dans le Nouveau Testament, quand on trouve le mot Seigneur, c'est kurios. Mais ici, c'est despotes. Ça veut dire despote, c'est ce qui a donné despote, c'est-à-dire le maître absolu. Et donc, eux, ils ont été frappés, flagellés. On leur a dit: vous ne parlerez plus au nom du Seigneur Jésus. Et eux, ils disent: mais on ne peut pas ne pas obéir à Dieu. Et puis, ils retournent, et puis, ils ont peur. Et puis, ils se retrouvent là, ensemble. Et puis, ils disent: maître, maître, toi qui as le pouvoir sur toute chose, toi qui domines toute chose, toute circonstance, toute situation, toi qui as le pouvoir de contrôler même nos propres cœurs. Ils disent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, viens nous secourir. Il dit: Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils étaient craintifs, mais après avoir pénétré devant le trône de Dieu, avoir placé leur regard sur le Dieu Tout-Puissant, sur le Maître incontesté, le seul Dieu, ils ont pris courage. Et c'est cela dont nous avons besoin. Et c'est pour cela que l'invitation nous est donnée. Approchons-nous donc, parce qu'on a besoin de poser nos regards sur celui qui est sur le trône, sur celui qui dirige et qui contrôle toutes choses dans l'univers et dans nos propres vies. Alors, on peut s'attendre à être secouru parce qu'il est le maître. Il tient toutes choses entre ses mains, les temps. Il tient nos destinées, il tient le monde entier, les nations, les rois, il tient nos circonstances. Au verset 15, il est dit: nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Vous savez, c'est ce qui nous gêne le plus pour venir devant Dieu. C'est parce qu'on aimerait venir en disant: Seigneur, je suis ton ami, je suis quelqu'un de bien, tu vois, je te ressemble tellement. On se comprend, nous. Mais c'est jamais comme ça qu'on peut venir. On vient en disant: je suis encore émerveillé que tu ne sois pas fâché contre moi encore. Comment est-ce que tu peux encore m'accueillir? Comment est-ce que tu peux encore prendre soin de moi? Comment est-ce que tu peux encore veiller sur ma famille, sur ton église, sur... Mais le sacrificateur que nous avons, il est compatissant. C'est un sacrificateur qui nous comprend. On chante et on aime chanter « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Une des strophes dit « Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri ». Une autre dit « Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci ». Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Quel ami nous avons. Lui, il sait, il perçoit notre détresse, nos angoisses, nos craintes, nos soucis. Il n'y a rien qui l'agace. Il n'y a rien qui l'insupporte chez nous. Il vient puis il comprend et comprend notre nature. Parce que lui-même a été tenté en toutes choses, bien qu'il n'ait jamais connu le péché. Il compatit à nos faiblesses. Le mot faiblesse, c'est asthénia, donne à asthénie, c'est-à-dire un état d'épuisement physique, psychique. On peut venir épuisé, complètement épuisé dans nos ressources, dans nos capacités, épuisé dans notre vie personnelle. On peut venir dans notre faiblesse, on peut venir dans notre infirmité, dans notre manque de force et de capacité nécessaire pour comprendre une chose ou pour faire une chose ou pour contenir des désirs malsains ou pour supporter des épreuves et des difficultés. Jésus-Christ, il comprend parfaitement chacun des dangers auxquels nous sommes exposés, et chacune de nos épreuves, chacune des situations dans lesquelles nous pourrions nous trouver, parce qu'il a lui-même connu de telles situations. Il a vécu toutes les tentations, toutes les épreuves, et toutes les vicissitudes et toutes les circonstances auxquelles quiconque d'entre nous ne pourra jamais être confronté. Mais sans jamais commettre le péché. Et quelqu'un pourrait dire, mais comment Jésus peut-il compatir à ma faiblesse puisqu'il ne connaît pas le péché? Et que le péché est tellement ancré dans ma vie. Comment est-ce qu'il peut véritablement compatir? Est-ce que l'on peut compatir et comprendre les souffrances engendrées par le cancer sans avoir eu un cancer? Je crois que oui. Oui, si par exemple on est cancérologue, un cancérologue investi dans son travail, il a une connaissance et une expérience bien plus grande même que notre patient. Si on est ce cancérologue, alors on a peut-être suivi une multitude de cas, on a suivi une multitude de patients, une multitude de situations de vie, on a suivi une multitude de familles. On s'est assis aux côtés des malades, on a entendu leurs plaintes, on a entendu la description de leurs souffrances, de leurs maux, on a perçu les angoisses de leur âme et celles de leurs proches, on connaît les possibilités d'évolution de la maladie, on est au fait des différentes thérapies et de tous les effets indésirables avant même que les premiers signes apparaissent. Oui, on peut comprendre et on peut compatir. Christ, lui, nous aime. Il connaît la faiblesse de nos cœurs. Il connaît les tentations auxquelles nous sommes soumises, même s'il n'a jamais défailli, avec un ami si proche. Comment ne pas nous approcher de lui avec assurance ? Si nous nous approchons de lui, vous savez quoi? La Bible dit qu'il s'approchera de nous. Ça, c'est Jacques, chapitre 4, verset 8. approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Il est l'amour inconditionnel. Il est notre justice. Il est la vie véritable. Alors, quand on s'approche de lui et qu'il s'approche de nous, c'est la paix qui s'approche de nous. C'est l'amour qui s'approche de nous, cet amour inconditionnel dont on n'est pas capable d'aimer. C'est notre justice qui nous est imputée. C'est la vie véritable qui nous est donnée. Voilà ce qui nous manque et voilà ce qui s'approche de nous quand dans la prière, on s'approche de lui avec assurance. Je vous laisse avec une question. Depuis quand ? Depuis quand n'es-tu pas venu devant ton Dieu, toi tout seul ? Pas dans la prière communautaire, pas dans la prière avant le repas avec tout le monde, pas dans la prière du soir ou en famille ou... Non, je veux dire, toi tout seul. Là où seul ton Dieu t'écoute, là où tu es libre de ce que les autres vont penser, là où les choses les plus intimes de ton cœur, tu peux les déposer à ses pieds. Depuis quand tu n'es pas venu dans cette intimité juste pour le rencontrer, juste pour répandre ton cœur devant le trône de la grâce, pour être secouru dans tes besoins, pour trouver grâce.